Bravo Original, soyez les bienvenus avec Léna Kadobounedi.
Bonjour à tous.
Sam Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Richard Lornac. Et notre invité, Monsieur Philippe Labro. Je suis ravi de vous accueillir.
Nous aussi.
Je suis ravi de vous voir.
Vous êtes à la maison, évidemment.
Ben oui. Vous nous manquez, Philippe.
Ah oui.
Je dis pas ça à tout le monde. Je vous assure.
Vous m'avez manqué aussi beaucoup.
Voyons-nous. Voyons-nous.
Vous inquiétez pas, aujourd'hui, il va pas vous louper. Philippe Labro est notre invité. Pour ceux qui ont raté les épisodes, c'est-à-dire les années précédentes de la bande originale,
bande de cons.
Il fait partie de cette bande originale à sa naissance et on était extrêmement fiers, mais pris par le travail et notamment l'écriture de ce.
Et puis pas assez payé aussi.
Nouveau roman, pas du tout. Ce nouveau roman.
Ça, c'est exact.
Signe chez Gallimard. Son nouveau roman. Tom Villa, que vous ne connaissez pas, qui ne comprend pas tout correctement.
Comprend rien.
Ouais, pour être plus précis, oui, en effet, comprend rien.
Le recrutement était délicat.
Pourquoi Philippe Labro est là, à votre avis?
Parce que c'est un écrivain de talent. Et puis voilà, comme vous l'avez dit, il faisait partie de la bande la saison précédente, mais entre-temps, il a trouvé un vrai travail. Donc voilà, aujourd'hui, vous lui avez proposé de passer, de faire un petit coucou. Philippe Labro, journaliste, écrivain, réalisateur, parolier de Johnny Hallyday, responsable de la création de D8, donc tuteur légal de Cyril Hanouna.
Ça commence bien.
Non, vous venez nous parler de votre livre Ma mère c'est inconnue, donc vous venez parler de votre maman. Eh ben, il y a pas de problème. Moi, je vais vous parler de la mienne. juste pour situer.
Là, c'est ça. Tu te venges.
Mais c'est juste pour présenter la famille. Ma mère, par exemple, c'est un peu la Macron des mamans. C'est, avec elle, c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison. Voilà, c'est tellement facile de lui retourner le cerveau. Quand j'ai commencé à faire ce métier, comme toutes les mamans, elle avait très peur du milieu qu'elle connaissait pas du tout. Elle pensait que j'allais sombrer dans la drogue. Elle me disait tout le temps de faire attention. Mais maintenant que les années ont passé, limite, je me ferai un rail de coke sur la table chez mes parents. Elle me dirait non, mais c'est normal. Il travaille beaucoup en ce moment. Tu vois, je suis presque à regretter de pas me droguer. Tu vois, par exemple, quand je lui ai dit que je venais à France Inter, elle m'a dit mais ils sont hyper intelligents là-bas. Ils sont au courant que t'as à peine le bac. Et du coup, je lui dis non, mais t'inquiète, c'est pour l'émission de Nagui. Elle m'a dit ça va, je savais pas qu'ils faisaient des quotas pour les gens comme vous. Donc voilà, ça c'est ma maman.
Okay.
Mais ce qui est génial, c'est qu'elle vit un peu ma vie par procuration, mais ma vie comme elle l'imagine elle, en fait. Donc ce qui est pas du tout ma vie. Par exemple, l'autre jour, elle me dit tiens, j'ai mis la télé, ça m'a fait plaisir. Il y avait Florence. Je lui ai fait c'est qui Florence? Florence Foresti. Mais pourquoi tu l'appelles Florence? Je dis ma mère, elle croit qu'on est tous potes dans le métier. Le truc, c'est que, mais moi, je me permets pas quand je la croise, que personne se permet d'ailleurs quand on la croise. C'est Florence Foresti, c'est pas une candidate de Koh-Lanta. Elle a un nom de famille. Ah, ma mère, véridique. Un coup, je vous jure que c'est vrai, Nagui. Elle m'a envoyé un SMS. Elle me dit, avec ton père, on cherche un appartement pour ta sœur. Tu peux demander à Stéphane Plaza s'il te plaît.
Non.
Mais je le connais pas.
Je suis sûr que c'est vrai.
Ah, mais bien sûr, c'est vrai.
Sûr. Ça s'invente pas. Cette...
Non, mais bon, enfin, tout ça, c'est avec beaucoup de tendresse et tout. Mais voilà, je veux dire. Elle me fait, oui, mais vous avez rigolé ensemble il y a 15 jours à télé. Je dis, on se connaît pas plus que ça. Je veux dire, toi, quand tu rigoles avec le vigile de Carrefour, tu vas pas aller lui demander s'il vaut mieux acheter un berger allemand ou un Rottweiler. C'est limite quand je suis malade si j'appelle Michel Simès. Donc voilà.
Ah non, mais ma mère. Ça, c'est ce qu'on fait tous.
Ça, on appelle tous Michel.
Oui, mais je lui ai dit, mais moi, je suis pas Nagui.
Il répond à chaque fois.
Et quand vous saurez qu'il est pas vraiment médecin, c'est la clé de droit.
Non, mais dernier exemple, il y a quelques temps, j'ai fait un selfie avec Georges Clooney au César. Elle est persuadée que je vais être le parrain de ses jumeaux. Elle est même allée acheter des bavoirs et des biberons. Tu lui feras un colis Amazon. Tu aideras Georges Amal. Bref, en tout cas, Nagui, voilà. Si vous aimez ma maman et puis surtout celle de Philippe Labro, et ben, Ma mère, c'est inconnue est un très bon livre fait pour vous.
Merci, Dominique.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Il a eu la décence de ne pas vous interrompre pendant votre.
Il a eu envie
votre
fois.
Papier, mais Daniel Morin m'a fait signe que sur l'anecdote de l'appartement.
Il n'y a pas que Daniel.
Je voulais changer d'appartement et ma mère m'a dit mais appelle Stéphane Plaza. Mais très sérieusement.
Oui, hein, évidemment.
Vous connaissez tous.
On est tous dans la grande famille du métier. Ouais. Philippe Labro, Ma mère s'est inconnue. Ce livre est touchant, bouleversant, émouvant, intelligent. Enfin, il a toutes les qualités. Il est extrêmement agréable à lire. Vous avez fait une véritable enquête, un véritable travail d'investigation qui a commencé du vivant de votre maman, puisque vous alliez la voir dans sa maison à Nice, dans son appartement à Nice, en notant des anecdotes, en lui posant des questions sur qui elle était lorsqu'elle était jeune fille, et non pas lorsqu'elle était maman. Vous l'avez connue maman, vous ne l'avez pas connue jeune fille, étudiante, séduisante, avec différents amants. évidemment des questions que l'on ne pose jamais à sa mère. On n'imagine jamais sa maman, ne serait-ce que aimer son propre père. Donc aimer d'autres hommes, c'est un travail qui était assez particulier. Quelle a été, avant que nous rentrions dans l'histoire, quel a été le détonateur ? À quel moment vous vous êtes dit, je ne connais pas l'histoire de maman avant ?
C'est beaucoup plus tard. Quand on est enfant et gamin et même adolescent, on se pose pas tellement de questions sur d'où viennent les parents, qui est ma mère. Et c'est plus tard, adulte, marié sans doute, et ayant déjà peut-être un enfant, oui, le premier mariage, que je me suis dit, mais je ne sais rien d'elle. Et on avait quelques éléments, parce que de temps en temps, elle en parlait, d'un père qu'elle avait jamais vu, d'une mère qu'elle avait abandonnée, mais elle ne disait pratiquement rien. Et donc, il y avait un mystère, et je voulais d'abord savoir pourquoi elle ne disait rien. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette espèce de pudeur incroyable qui faisait que cette femme, pleine d'amour et de vie, qui ne s'occupait que de ses enfants, nous, les quatre frères, et puis ensuite nos propres enfants, ne voulait pas raconter sa vie. Soit c'était la honte, parce qu'elle était effectivement une fille naturelle, et qui a été abandonnée par son père qu'elle a vu une fois dans sa vie, et sa mère qu'elle a vu pratiquement trois fois, soit que... Au fond, elle se disait, j'ai changé de vie, je suis autre, puisqu'elle a eu la chance et le miracle de rencontrer mon père, qui avait 20 ans de plus qu'elle, si bien qu'elle, ça, d'une certaine manière, il est devenu son père.
C'est ça, c'est la quête du père, 20 ans d'écart. Ouais. Ouais.
Et elle a fabriqué avec lui une sorte de cocon, hein, dans lequel on était tous très heureux, qui se passait très bien, et il n'était pas question de parler du passé. Or, pour moi, le passé... signifie tout et explique tout, en partie en tout cas.
Ah ben en tout cas, cette investigation, elle est bouleversante. On peut pas faire d'ailleurs, Leïla, on peut pas lire ce livre sans faire le travail de se poser des questions sur sa propre maman, son propre papa.
Sauf s'ils ont laissé des VHS.
non, mais ils sont pas tous comme les tiens.
Et c'est aussi ce qui est très très beau dans ce livre, Philippe Labreau, parce que finalement, partir sur cette quête-là des origines, on est dans la grande tradition littéraire. Beaucoup d'auteurs l'ont fait. C'était sans doute pas leur premier livre et c'est pas le vôtre non plus. Et ce que j'ai trouvé très touchant, c'est comment vous racontez l'itinéraire de cette mère, comment vous, en tant qu'enfant, vous le dites très bien, il nous suffisait. On n'avait pas besoin d'aller chercher plus loin, c'était eux, les parents, le socle, ce père aussi fort et qui tenait toute la maison. Cette mère qui, ce que j'ai trouvé profondément touchant, c'est comment une femme comme votre mère, qui n'a pas forcément joui de toute cette tendresse maternelle et paternelle, a été capable... à son tour, sans rien savoir, sans rien apprendre, sans jamais le ressentir, elle a été capable de le donner à ses propres enfants. Ouais. Et moi, je trouve ça tellement bouleversant. Ouais. Et vous commencez le livre aussi, moi, juste avant même de lire vos premiers mots, la citation, l'exergue de Cohen, d'Albert Cohen. Ouais. Voilà, j'ai fini ce livre, et c'est dommage, pendant que je l'écrivais, j'étais avec elle. Et j'ai trouvé ça vraiment, Philippe... vraiment bouleversant.
T'as lu que ça ?
Non, mais c'est vrai qu'elle revit, ça donne le ton. Et tout de suite, moi je vous ai vu tout d'un coup, Philippe, comme un petit garçon.
Ce que je suis encore.
Ce que vous êtes encore.
Ce que nous sommes tous.
Mais je l'ai pas découvert.
C'est ce que disait le prêtre des Glières pendant la guerre à Malraux. Malraux lui dit, qu'est-ce que vous avez appris dans votre sacerdoce ? Et il dit, j'ai appris que les gens sont plutôt malheureux de manière générale, mais surtout qu'il n'y a pas de grandes personnes. Nous ne sommes pas vraiment des grandes personnes. Nous sommes des enfants qui ont grandi, ce qui n'est pas pareil. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre commentaire. Oui, effectivement, cette femme n'a pas été aimée pendant les 20 premières années de sa vie, pratiquement. Bon, elle a eu une amourette, voilà. Et puis elle a été aimée de son frère, puisque son frère est aussi issu du même couple improbable entre une jeune institutrice française et un comte polonais qui possédait la moitié de la Biélorussie. Bon, on ne sait pas comment ils se sont rencontrés, ça, j'ai jamais pu le savoir, c'est impossible. Parce qu'on a beau appeler les mairies, voir les fiches d'état civil, voir les généalogistes.
Ouais. Alors, quand on ne sait pas comment ils se sont rencontrés, vous parlez de votre grand-mère.
Que j'ai jamais connue.
Voilà.
Et mon grand-père, j'ai jamais connu.
Voilà. Bien. Et donc, vous imaginez qu'elle était peut-être prescripte, tuteur ou
à l'époque,
professeur de français en Pologne.
Oui, à l'époque, effectivement, tous les pays d'Europe, ce qu'on appelle l'Europe de l'Est, qui est l'Europe tout court, il y avait une tradition sur laquelle le français était la première langue. Et il y avait beaucoup, effectivement, de gens qui, dans les familles un peu riches, venaient apprendre le français aux enfants. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement... ma mère est issue de ce couple qui l'abandonne.
Illégitime, parce que lui il avait d'autres enfants.
Marié, cinq enfants.
Voilà.
Et puis, on rigole pas dans une famille polonaise du début du siècle.
Mais visiblement, il aimait votre grand-mère, puisque non seulement il lui a fait un enfant, mais il en a fait un deuxième an après, donc c'était une liaison, c'était pas juste une aventure.
Non, c'est une histoire d'amour.
Voilà. Beaucoup d'affection quand même, deux enfants. C'est qu'on aime bien la personne.
Non mais en un an d'écart.
N'écoutez pas, Philippe.
Moi je t'aime beaucoup, Nani, mais pas.
Le truc, c'est que Philippe, il peut pas dire qu'il connaissait pas.
Non, mais ce que je voudrais répondre à la question, Léa, c'est comment quelqu'un qui n'a pas connu
l'amour,
la tendresse maternelle, arrive à devenir une telle mère.
Et une telle grand-mère qui a sur son petit carnet toutes les dates d'anniversaire de tous les membres de sa famille.
Eh bien, parce que, selon moi, le manque d'amour crée le besoin d'amour et de donner. C'est-à-dire qu'elle passait son temps à donner ce qu'on ne lui avait pas donné. Mmh. Et c'est assez beau. Je pense que c'est pas unique au monde, hein. Ça existe beaucoup. Mais il y a ce renversement total de situation qui est dû surtout à la rencontre avec mon père. Sinon, que serait-elle devenue ?
Alors, ce roman se lit, on comprend, comme une histoire d'amour entre vous et votre maman, mais aussi avec ses rebondissements. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses, mais à un point dingue. Ça vous a pris combien de temps pour faire toutes ces enquêtes, toutes ces rencontres ? Parce que c'est une véritable investigation.
Ouais.
Vous êtes,
J'allais souvent la voir quand elle était à Nice. Papa avait déjà disparu. Pour lui poser des questions, pas forcément sur elle, mais pour la voir, pour l'aimer. Et puis, comme je suis journaliste, j'avais mon petit Moleskine avec moi, mon petit carnet, et j'écrivais quelques éléments.
Ce qui a commencé à l'énerver.
Oui. Je lui dis, ça te dérange ? Elle me dit, non, pas du tout. Mais quand une mère vous dit non, ça ne me dérange pas, ça veut dire que oui, ça la dérange. Donc, vous posez votre carnet et vous essayez de faire travailler votre mémoire. Et j'essayais de savoir, parce qu'elle dissimulait tellement ses origines. Je ne sais pas si c'était par honte ou par pudeur, ou tout ça à la fois, ou par orgueil, qu'elle nous donnait même, parce qu'il n'y a pas que moi qui lui ai posé des questions, un faux nom du père. Elle connaissait parfaitement le vrai nom.
Ouais, elle prétendait qu'il s'appelait Slotine, et en fait, c'était...
Slotine, il y avait un copain, François, qui s'appelait Slotine. Je lui ai dit, écoute, on est peut-être cousins, et ça nous a tous fait rire. Et comme il était juif, j'ai dit à mes enfants, ben voilà, on est peut-être juifs. Et ma fille a dit, chouette.
dans cette enquête, vous découvrez donc votre grand-mère avec votre oncle, donc Henri et Henriette ont été qui s'appelait Henri et Henriette parce que le comte c'est un comte polonais, s'appelait Henrik. Donc Henri et Henriette sont confiés à une sorte de nounou de
non, c'est une femme qui dirigeait une pension.
En Suisse.
D'abord en Suisse, ensuite. Je les appelle les enfants valises.
Il y a eu Mani et il y a eu Marraine.
Voilà, bravo, vous avez bien lu.
Oui, je vous remercie.
Ah oui. Il lit les livres, Nagui, quand il est formidable. Non, c'est rarissime, comme vous le savez. Aujourd'hui, nos confrères ne lisent
sur France Inter, c'est contractuel, mais.
Non, la personne qui lui lit les livres a une très bonne diction.
Et une très bonne mémoire qu'il m'injecte aussi.
C'est ça. Oui, donc elle est baladée, si j'ose dire.
Il y a eu Mani, ça c'était en.
Mani en Suisse. Ensuite.
Ils sont restés quand même pratiquement 9 ans.
Oui.
Ça veut dire qu'ils se sont attachés quand même.
Oui, c'était leur mère.
L'un à l'autre, voilà.
D'une certaine manière. Et là-dessus, la vraie mère arrive et leur dit écoutez, bon, il y a un problème d'argent, il faut que je vous emmène ailleurs. Problème d'argent, pourquoi ? Parce que le comte ayant été enterré vivant par les bolcheviks, l'argent qu'il versait à...
n'était plus là pour subvenir aux besoins de l'éducation des enfants. Donc là,
il en reste encore un peu suffisamment pour l'emmener à Versailles dans une pension tenue par une femme admirable qui, elle, a vraiment élevé. Et mon oncle et ma mère, qu'ils ont appelé marraine.
Marraine.
Voilà. Et c'était une sorte de marraine. Mais tout ça ne fait pas la présence d'une mère ou d'un père. Il n'y a rien à faire.
Non, mais il commence. Il y a des moments extrêmement violents dans le livre, notamment quand à l'école, on remplit des fiches avec nom de la maman, nom du papa. Bah, là, évidemment, il ne pouvait pas remplir.
Oui, d'autant qu'il y a l'affaire, un salaud, quoi. Un professeur un peu sadique, ça peut exister, qui est là, il dit c'est une vérification des fiches, donc mademoiselle Intel, oh, très bien. Et puis, il arrive à la fiche de ma mère, il dit mais attendez, je ne vois pas le nom de votre père. Et ma mère, qui est une femme très volontaire et très, très orgueilleuse, se lève et lui dit « Donnez-moi ce papier ». Et il y a une confrontation entre le prof et la jeune lycéenne qui fait qu'il se braque. C'est un méchant, hein, ça arrive. Et il dit à haute voix « Eh bien, écoutez, très bien, votre fiche, il y a écrit « Né sans père ».
Donc, c'est d'une violence inouïe.
Illégitime.
Inouïe.
Parce qu'à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui, j'en suis sûr, être un enfant qu'on appelle naturel, c'était une tare. C'était comme une maladie.
Alors, dans tous
les... partir de là, elle construit, elle essaie de construire des défenses.
On disait bâtarde.
Le
mot même.
Plus qu'enfant naturel. Enfant naturel, c'était quand on était poli et châtié
dans sa langue. Mais bâtard ou bâtarde, c'est quelque chose qui imprime aussi une vie et qui veut dire une humiliation au quotidien.
Et alors, il y a une autre forme d'abandon aussi, c'est la reconnaissance que fera cette marraine de votre oncle d'Henri, parce qu'il veut intégrer Saint-Cyr, et là, il faut qu'il soit adopté, entre guillemets, par marraine, et elle fera ce travail-là, mais elle ne le fera pas pour votre maman, qui...
Mais ça nous a toujours un peu surpris, nous, les
C'est frères. Violent, ça, quand même.
Ben oui, et c'était pas violent de la part de marraine. Elle lui a dit, écoute, tu es jeune et tu es belle, tu trouveras un mari, tu trouveras un nom. Tu auras un nom un jour.
Donc tu feras ta famille, c'est pas la peine. Ça. D'accord. Et elle a rencontré marraine.
Hein?
Vous l'avez rencontrée, Marine?
Bien sûr. Non, mais c'est une femme admirable. Elle les a élevées, elle les a pratiquement adoptées, même si elle n'a adopté officiellement qu'un des deux enfants. Simplement, je continue de croire que tout ça, ce sont des séries d'abandon. Mm-hmm. C'est aussi un livre sur l'abandonite, ce qu'on appelle l'abandonite, autant que sur la résilience, qui est le terme à la mode. C'est-à-dire la résistance aux coups que la vie vous porte. Et à partir de toutes ces épreuves, voilà une femme qui se reconstruit totalement grâce à son mariage et qui devient un puits d'amour et qui ne se donne qu'aux autres.
Et qui se reconstruit dans le silence aussi de cette histoire passée. C'est cette envie-là de tourner la page, de laisser tout ça bien derrière elle, ce qui peut expliquer qu'elle n'en ait jamais vraiment parlé.
Ouais, et puis puits d'amour qui va se mettre en danger lorsque, pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, parce qu'on n'attend pas une troisième.
C'est pas fini.
Donc pendant la Seconde Guerre,
il y en a déjà une, hein. Troisième guerre mondiale. Vous êtes au courant? On est en guerre mondiale en ce moment, non? Vous savez pas?
On est en guerre.
Presque mondiale, mes enfants.
D'accord. Bon. Vous n'êtes pas venu, Philippe, pour plomber la journée, quand même. On était là avec la.
On est tranquille le 4 avril.
Je comprends.
Il fait beau.
Il nous déclare la guerre. Temps. Bon. Non, mais donc, pour revenir à la lucidité de votre papa, Jean-François, et pas Jean, parce que vous l'appelez Jean pendant tout le long. Et en fait, son prénom, c'est Jean-François.
Jean-François, oui.
Voilà. Vous partez, donc, dans la zone libre, en se disant, on peut pas rester à Paris, il faut protéger la famille et les enfants. Donc là, tous les six partaient pour Montauban, pour la Villa de l'Horizon, que vous décrivez, mais on a l'impression de l'avoir visité maintenant, cette maison. Maison où votre père va être sollicité pour protéger des juifs qui vont fuir, évidemment, le nazisme et l'horreur pour aller dans cette zone libre ou vers les Pyrénées.
À partir de la zone, Pyrénées et l'Espagne, oui.
Et vos parents vont être des justes.
Oui, c'est ça. Oui. Beaucoup plus tard, grâce à des témoignages qui nous ont été sollicités, ils ont été reconnus par Yad Vashem comme ce qu'on appelle juste parmi les nations. Et c'est évidemment quelque chose de très très admirable ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont risqué leur vie et celle de leurs enfants.
Et celle qui a toujours été abandonnée, celle qui n'a même pas été reconnue entre guillemets ou adoptée par marraine, elle va adopter une juive s'appelle Dora, qui fuit, qui a besoin de se cacher, et elle va non seulement la garder, mais mettre en péril toute la maison et ses propres enfants quand les collabos, alors je ne sais pas si c'est c'était la soi-disant police.
Oui, enfin, c'était des saligots, quoi.
Voilà, des saligots, des cons.
C'est des mots gentils. Hein.
Qui débarquent, ouais. C'est vrai. Mais c'est je crois que c'est le mot, c'est le mot employé à un moment donné, où ils traitent de cons, ou elle les traite de cons, en tout cas. Débarquent, elle les voit arriver du portail, comme ça, marcher. On imagine une grande allée montante vers. De gravier montant vers la maison. Et en voyant ces deux personnes, ne sachant pas du tout qui ils sont, pourquoi ils viennent, pourquoi ils sont là, elle se met à crier, mais sans paniquer, mais très calmement et avec beaucoup de flegme, Dora, vite, va-t'en.
Oui, parce qu'elle a l'instinct et l'intuition. Oui. Elle voit ces deux bons hommes habillés de noir, puisque ces imbéciles-là s'habillaient de noir, ce qui faisait qu'on les reconnaissait facilement.
Un petit indice.
Un petit indice.
comme au cinéma, sauf que c'est pas du cinéma. Et par conséquent, ça, c'est ce que j'ai trouvé admirable chez elle, c'est l'intuition, l'instinct absolu. Elle ne réfléchit pas, dit « va-t'en », parce qu'elle sait que le danger est là. Donc, pendant que Dora fiche le camp pour traverser une rivière et aller beaucoup plus loin chez...
Dans une autre ferme qui...
chez
qui
des fermiers.
Attenante, oui.
Dont mon père se servait pour les... pour dispatcher, si j'ose dire, les Juifs, pour ensuite qu'ils partent vers les Pyrénées. Et pendant ce temps, elle prend ses deux de ses enfants, c'est-à-dire mon frère Jacques et moi, oui, c'est ça, par la main, en disant... Venez.
Et vous avez servi presque de bouclier humain.
Non, parce qu'elle va
pas
devant ces deux hommes.
Ouais, ouais.
Elle va devant ces deux hommes sur ce chemin un peu étroit.
Et c'est une barrière.
D'une certaine manière, c'est la barrière. Et ils vont quand même pas la violenter, la molester. Et elle est là, très froide, beaucoup de sang-froid. C'est-à-dire d'un seul coup, celle que son mari, mon père, appelait mon enfant, puisqu'elle a 20 ans.
Ma petite. Il y a beaucoup de petits aussi dans les...
Oui,
dans
mon
les...
petit enfant. Ouais. Mon oiseau. Mon
petit oiseau.
Oui, mon oiseau. Ben, l'oiseau s'avère être en acier. Et... fait face à ces deux hommes, les démasque et en même temps les déséquilibre par son langage, par ses interrogations, en disant, écoutez, revenez quand mon mari sera là, mais vous n'avez pas le droit de pénétrer dans notre vie privée. Mais qui est cette femme, lui demande-t-il. On a le nom, ils avaient le nom, il y avait une dénonciation. Hein.
Ils avaient le prénom et le nom de famille, et en fait, tout ce qu'elle fait, c'est combler l'espace vide le plus possible pour laisser
gagner
le temps
du
à Dora.
Gagner du temps, voilà, que Dora s'en aille. Voilà.
Laisser le temps.
C'est un moment très très fort que j'ai voulu décrire,
parce que
je l'ai vécu, mais en même temps parce qu'il symbolise ce que notre mère était véritablement, non seulement un puits d'amour, mais une force, puisqu'elle a aidé mon père pendant toutes ces années-là.
Et je crois que votre père a été amené à cacher des Juifs.
Oui, bien sûr.
Chez vous, parce qu'il avait reçu, la première fois, je crois, tout a été déclenché par un coup de téléphone d'un ancien client, c'est ça,
il parisien. Il était conseiller juridique à Paris, quand il en a quitté Paris, il avait laissé ses coordonnées, et quand tout ce drame, cette tragédie commence, et que les Juifs commencent à sentir qu'ils ne peuvent pas rester, ils fuient la zone occupée, puisque nous étions en zone libre.
Mais c'est ça.
Et l'un d'entre eux appelle mon père en disant « Est-ce que vous pouvez m'héberger une journée avant que je parte pour l'Espagne ?» Et ça a démarré comme ça, et peu à peu le bouche à oreille a fait qu'en sorte, c'est devenu comme une filière à travers les gens,
les gens passaient. Et on parle beaucoup d'Henriette, on parle pas assez peut-être d'Henri, qui lui est rentré dans l'armée et a combattu justement les nazis jusqu'en Italie.
Ouais.
Et la scène où des soldats reviennent en zone, après la libération en tout cas, où vos parents, on imagine comme une sorte de terrain vague comme ça, un peu boueux, en disant est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu le nom de tel commandant, jusqu'au moment où ils apprennent qu'il a été tué par les nazis et d'une violence inouïe et d'un réalisme. Non, enfin bon, voilà, c'est écrit, c'est signé Philippe Labro, c'est extrêmement bien écrit. Il y a, vous pouvez le lire comme un roman, vous disant vous allez découvrir une histoire à rebondissement, et vraiment toutes les deux pages il y a un rebondissement, il se passe quelque chose.
Mais c'est fatigant.
Et puis,
il se passe trop
trop d'action.
Je comprends que ça vous fatigue. Compte tenu de votre IQ, c'est sûr que...
Et surtout...
Ah, on attaque.
Mais j'attaque avant que vous m'attaquiez, mon cher.
Et surtout, ensuite, il y a tout le travail que l'on fait une fois qu'on a fermé ce livre, en se disant... Et maman, c'est-à-dire qu'il est impossible de lire ce livre sans se poser, on est d'accord, là, la question sur ses propres
racines. Et en se disant qu'il faut sans doute commencer ce travail le plus tôt possible.
Il vaut mieux le commencer quand ils sont encore là.
Voilà, mais j'ai la sensation que plus ils vieillissent et plus ils se ferment et moins ils veulent raconter leur histoire. Et je trouve que justement, ça donne envie.
Ça marche dans les deux sens, parce que moi, je suis même allé jusqu'à me poser la question de savoir qu'est-ce que tous les non-dits aussi de mon épouse et personnellement, à nos enfants, que l'on protège aussi en ne disant rien de...
Et
de
vos non-dits, mon cher Nagui.
Oh, ça va.
En tout cas, Nagui, vous pouvez finir en prison si vous dites tout à vos enfants. c'est surtout ça le problème.
Mais Philippe, si vous n'aviez pas été un grand journaliste comme vous l'êtes, est-ce que vous pensez que vous auriez été si curieux de ça? Est-ce que vos frères, par exemple, interrogeaient votre maman?
Pas professionnellement, comme je le faisais pratiquement. Mais bien sûr. Non, c'est pas une question de métier. C'est que tout enfant se pose des questions sur qui sont mes parents. Et par conséquent, oui, mes frères, pas seulement d'ailleurs.
Oui, mais on n'ose pas faire en effet ce travail de journaliste d'investigation et on se pose la question, mais on n'a peut-être pas envie d'entendre la réponse aussi. Parce que, encore une fois, personne ne peut imaginer son papa et sa maman faire l'amour pour nous concevoir. C'est quelque chose qui. Non, personne.
Une porte fermée, point bas, on
personne,
pose pas de questions.
Personne, donc on pose pas de questions.
Mais il n'est pas question de poser des questions là-dessus.
Pas là-dessus, oui.
Non.
Pas ça.
Mais
d'autres parts cachées. Non, mais il y a des choses qu'on n'a pas envie de savoir.
Non,
mais
après, il y a des histoires familiales aussi qui sont un peu plus simples que d'autres.
Ouais. Parce que, pardon,
c'est-à-dire que quand on connaît ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, qu'on connaît la filiation, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mystère. Je dis simplement que l'histoire, on nous l'a peut-être racontée de façon un peu plus simple. Là, dans le cas de Philippe,
sauf que là, l'histoire est belle.
Cas, voilà.
Sauf que là, l'histoire est belle.
Mais
imagine
même si
la même
pas.
Investigation sur une histoire qui, avec tout le respect que je vous dois, Philippe, était.
Tournerait mal,
tournerait mal. Et qu'en l'occurrence, elle n'ait pas été juste parmi les nations, mais au contraire
injuste
ou pétainiste ou n'importe quoi.
Un jour j'écrirai.
Non mais cher, c'est...
J'ai la coupe de cheveux de ma grand-mère. Hein.
La quête prédétermine pas le résultat, hélas.
Voilà, c'est ça. Et ça donne donc un nouveau roman, très bon roman, Ma mère, cette inconnue, avec la question qui est toujours là présente, pourquoi a-t-elle été abandonnée, question dont elle ne connaîtra jamais.
Je pose aussi une question finale qu'on peut tous se poser. Aimons-nous assez ceux que nous aimons? C'est-à-dire que quand je suis sorti de tout cela, je me suis dit, mais l'ai-je assez aimé? Ai-je été assez présent? Elle habitait Nice. Moi, je venais la voir, une fois tous les 3 mois. Dieu merci.
Elle avait l'un de ses fils proches.
Un de mes frères, Claude, est resté auprès d'elle tout le temps. Quand j'arrivais d'ailleurs, il ne venait pas en me disant, écoute, elle ne te voit pas.
Ce que vous racontez, on va vous laisser
on va te laisser seul avec elle. Ouais. Et c'est quand même extraordinaire à quel point, sachant que je ne venais qu'une fois tous les 3 mois, elle me pardonnait. Et en même temps, elle ne me pardonnait pas tout le temps. Puisqu'il y a une anecdote dont on va peut-être
une
pas...
Une vanne, ouais. Il y a une jolie vanne. Elle cite une chanson de des paroles que vous avez écrites pour Johnny sur Ma Jolie Sarah, où elle dit « Merci, merci pour ton effort ».
Ma pauvre Sarah.
Tu m'as donné ton corps. Oh, pauvre Sarah.
Et c'est maintenant.
Merci, merci pour ton effort.
Et donc au moment où vous partez pour rejoindre la navette et ne pas rater l'avion pour rentrer sur Paris, au bout du couloir, presque de dos, vous l'entendez vous dire avec un sourire malicieux, merci, merci pour ton effort.
Ce la qui me scotche, comme on dit familièrement.
C'est une belle vanne, ouais.
Oui, c'est plus que ça. Ça veut dire, oui, t'es venu, très bien, t'es resté quelques heures, t'as passé le temps à regarder ta montre, parce que t'avais peur de rater l'avion.
Ouais, mais il y a la malice aussi,
c'est malin.
C'est pas méchant. C'est...
Ça prouve aussi qu'elle a de la mémoire, parce que cette chanson-là, ce qui est arrivé là, c'était dans les années 90, cette chanson-là, j'écris dans les années 70. Ça veut dire qu'elle se souvenait de ce que j'avais écrit, et en même temps, c'était pas un reproche qu'elle me faisait, c'était une petite réflexion. Mm-hmm.
Ça s'appelle Ma mère, cette inconnue, vous la connaîtrez mieux, et c'est un travail après que l'on fait sur soi, enfin je pense que Leïla et moi, on est partis sur ce chemin-là, en tout cas.
Ça mène loin, ça mène loin.
Vos oreilles ont sifflé, douce Leïla, lorsque Philippe Labro a été annoncé comme
et
notre invité.
Mais bien sûr, et quand je pense à vous, Philippe, je pense à beaucoup de choses. Vous avez une vie très très riche. Je me suis arrêtée sur un événement que vous avez vécu et qui nous concerne tous.
2 novembre 1954, la guerre d'Algérie commence. Je ne croyais pas que le pire fût si proche. Ceux qui en Algérie sont passés à l'attaque ne pouvaient douter de ce que serait la réponse du gouvernement français, puisqu'il ne dépend plus de personne aujourd'hui que l'Algérie ne fasse légalement partie du territoire de la République.
Ce sont quelques mots de François Mauriac, lu par Henri Virlogeux. C'est le bloc-notes de Mauriac qu'il a tenu sur une année, sur l'évolution de la guerre d'Algérie, qu'on appelait alors les événements.
Oui, on n'a jamais osé dire la guerre d'Algérie.
C'était un mot...
Si, on l'a dit après.
Voilà, c'était un mot à l'époque compliqué.
Hypocrite.
On peut aussi le qualifier comme ça. Et vous, Philippe, vous étiez présent aussi en Algérie en 60. Vous étiez appelé du contingent.
Oui. J'ai fait 28 mois de service militaire.
28 mois à l'époque.
Ouais. Voilà. 14 en métropole et puis 14 en Algérie.
Et alors, ces 14 en Algérie, bah, ils ressemblaient à quoi? Parce que vous y étiez aussi en tant que journaliste, reporter.
Oui, mais ils ressemblent à la rencontre, quand on est encore très jeune, avec la mort, avec la trahison, avec la lâcheté, avec le courage, avec la peur. Et donc, c'est une expérience qui, selon moi, définit des générations. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de générations, ça a duré quand même très longtemps cette guerre, et il y a un paquet de Français, qui n'ont plus 20 ans aujourd'hui certes, qui ont vécu cela. Et ça vous marque pour toujours. Parce que vous sortez de là, vous avez des rides.
On vieillit prématurément.
Ah ben forcément.
Et à l'époque, vous disiez, l'adversaire, c'était pas tant le FLN que l'OAS.
Oui, exact.
C'était là,
oui, parce que c'était la fin, là. L'indépendance était acquise. Ouais. Et c'était les 4 ou 5 derniers mois d'une violence inouïe dans les rues, des hôpitaux attaqués, bombardés. Moi, ma première expérience, quand j'arrive à Alger, je le raconte dans mon premier roman,
Des feux
mal éteints. Je suis dans la rue Michelet, qui est la rue principale d'Alger, et j'entends un coup de feu, il y a une femme qui tombe à côté de moi. Mais c'était une musulmane. À l'époque, l'OS flinguait tout ce qui arrivait dans le quartier, disons, blanc, de façon tout à fait, évidemment, atroce. Et donc, quand vous rencontrez la mort de façon aussi brutale et aussi significative, ça vous oblige à prendre quelques choix et à décider de votre destin.
Qu'est-ce que ça a actionné chez vous?
Ben moi, j'étais à l'époque, je considérais que l'indépendance était acquise et que ce peuple avait besoin de son indépendance, même s'il y avait eu de la part du FLN, soyons clairs, autant d'atrocités que de la part des forces françaises. On n'a pas commencé à essayer d'équilibrer.
Ça s'appelle une guerre.
Oui, c'est ça s'appelle une guerre.
C'est jamais très propre.
Personne n'a jamais complètement la vertu. Et moi, j'en suis sorti avec la certitude d'abord qu'effectivement, il n'y a pas de certitude. Qu'ensuite, c'est l'histoire qui jugera, parce que quand je suis sorti de là, je considérais qu'effectivement, l'indépendance, ça allait bien se passer, que les rapports entre la France et l'Algérie, ça irait plutôt pas mal. C'est pas tout à fait le cas. Mais ça m'a hanté et habité très longtemps. Très très longtemps. Et j'en ai fait d'ailleurs à mon premier roman, Des feux mal éteints. Les feux sont mal éteints. La meilleure preuve, hein. C'est qu'encore récemment, un candidat à l'élection présidentielle a parlé de ces feux mal éteints. Et ça a été tout de suite très mal vu, alors que la phrase n'était pas tout à fait prise dans le contexte.
Emmanuel Macron,
oui,
pour ne pas le citer. Pour qu'on soit, voilà.
Mais non, mais bien sûr. Il y a beaucoup d'aller-retour ou de clin d'œil, en tout cas, à vos romans.
Dans le livre,
oui. Ouais.
Ben oui, au fond, j'ai aucune imagination.
Non,
je ne fais que me servir de mes propres livres.
Ma mère s'est inconnue, en tout cas, le nouveau roman, ça a pris combien de temps à l'écrire?
Ça a pris du temps. D'abord, ça a pris du temps à faire l'enquête et à poser des questions, puis à réfléchir. Je ne pouvais l'écrire que lorsque ma mère serait morte, c'était impossible autrement. Mmh. Tous mes frères, toute ma famille me disaient « Il va falloir que tu écrives le livre de maman, le livre de Mamika, de Netka ». Ça m'a pris à la fois donc ces années d'études et de réflexion, mais aussi d'écriture qui m'a été interrompue, lorsque d'ailleurs je vous ai quitté, par une rechute dans une dépression très violente.
Dont vous parlez à nouveau dans le livre.
Et quand je pense à vous, Philippe, je pense aussi à votre cinéma et à un cinéaste qui a beaucoup compté pour vous.
Les gangsters ne correspondent à rien. Pour moi, je trouve que ce sont des pauvres types, des minables. Mais il se trouve que les histoires de gangsters représentent un véhicule facile à exploiter pour cette forme de tragédie moderne qu'est le film noir tiré de la littérature noire américaine.
Jean-Pierre Melville.
Quelle belle voix, non?
Quelle belle voix et quel bel homme.
Bah oui, formidable.
J'ai revu comme ça des vidéos d'archives sur Lina.
Oui.
Et il était assez impressionnant. Il avait cette voix en effet très grave, ce regard à la fois très fort et très doux.
Ouais.
Là, il s'exprimait sur les gangsters, sur les films noirs, sur aussi les États-Unis qui l'ont beaucoup influencé. Et vous êtes dans le même cas que lui et surtout vous étiez très proche de Jean-Pierre Melville.
Oui, c'était mon mentor. Il m'a appris beaucoup de choses, il m'a aidé énormément. C'était un homme très généreux. Il m'a livré quelques secrets de la mise en scène pour mon deuxième long métrage qui s'appelle « Sans mobile apparent », de façon d'une générosité inouïe. Mais, si vous voulez, il y avait des affinités électives. Il avait fait sa guerre mondiale, parce qu'il a fait pratiquement 7 ans de guerre, hein, et j'avais fait ma propre guerre. Pendant ma propre guerre d'Algérie, les soldats s'appelaient Max, et de la même façon pendant la guerre mondiale. Donc Jean-Pierre m'appelait 2 fois par jour, et moi je le rappelais 2 fois par jour, et il me disait « Allô Max ?» C'est Max. Mais cette voix sublime, il m'a aussi appris cela. Il m'a dit, parlez bas et lentement, on vous écoutera beaucoup plus.
Eh bien, ça fonctionne. Et quel est, si vous deviez recommander une œuvre de Melville, un film de Melville qui vous, vous a touché, influencé au point de vouloir vous inscrire dans son sillage?
Moi, je pense qu'il n'a fait que des chefs-d'œuvre pratiquement, mais il est vrai que l'Armée des Ombres, qui raconte encore une fois les années de l'occupation, est un total chef-d'œuvre. Simone Signoret, Paul Meurice, Jean-Pierre Cassel, dans un rôle bouleversant, Paul Crochet. Il y a des séquences, il y a des scènes inouïes, et en même temps, il raconte ce que c'était que ce courage de quelques-uns. N'oublions pas que les résistants étaient quelques-uns face à l'occupation et à la délation. Et puis, il y a aussi quand même le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre qui est le Cercle Rouge. C'est quand même le plus beau film noir qu'on connaisse, ou presque. Hein.
Je me doutais bien que ça allait être compliqué de choisir.
C'est toujours compliqué. Choisir est une chose compliquée, Leïla.
C'est relancé déjà.
Oui.
Voici l'humeur de Frédéric Sigrist, messieurs. Mais si. Mais un peu bonne humeur, d'ailleurs. J'ai pas peur. Hein.
Non, ça va. Ça va, ça va.
Ça va, Fred.
Bonjour, monsieur Labro.
Bonjour.
Ça me fait du bien de vous voir autour de cette table. Oula. Et parce que je me rappelle de cette époque où on avait tout un tas de sages autour de cette table. Maintenant, on a Tom Villa. C'est différent. C'est différent. C'est pas moins bien, c'est différent. À l'époque, la culture avait le droit de siéger à cette table. Ah oui, Leïla. Oui. Non, mais c'est bien ce que je dis. Vous avez laissé un grand vide, monsieur Labro. Je me souviens de vos interventions, de celles de Pierre Lescure. Hein. En fait, on a des nouvelles de Stéphane Blakowski? Parce que le médecin lui a toujours pas accordé de permission? Bon, en même temps, c'est normal, une thérapie, ça prend du temps. J'ai lu votre livre, monsieur Labro, et je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs.
Ah
oui, ça peut sembler étonnant comme ça à première vue, mais c'est le cas. Vous avez cherché à retrouver l'histoire de votre mère, moi, la mienne a longtemps essayé de me perdre. Oui, un peu partout, dès qu'on allait dans un supermarché, elle était « reste là », et puis elle courait très vite, mais j'ai toujours ça. C'est un livre qui m'a ému, qui m'a donné une envie, c'est faire le bilan de ma vie. Hein. Leïla et Nagui en ont parlé, et moi aussi j'ai eu ce besoin d'introspection, et j'ai réalisé qu'en fait, tout n'était que mensonge. Vraiment, oui. Je vais avoir 40 ans cette année et j'ai le sentiment que ça fait 40 ans qu'on se fout de ma gueule. En fait, oui. Si je pouvais, j'attaquerais la vie en justice pour publicité mensongère. La vie, finalement, c'est comme les hamburgers des pubs McDonald's. Ce que tu retrouves dans ta petite boîte ressemble rarement à ce qu'il y avait sur la photo. Hein ? Entre la photo et ton assiette, t'as l'impression que ton hamburger, il a fait la chouille pendant 3 nuits, qu'il a pas dormi pendant depuis 48 heures et qu'il a pas eu le temps de prendre une douche. Et c'est pareil, finalement, pour tout. Même moi, je mens à mes gosses désormais. Je me rends compte qu'on commence à mentir aux enfants dès leur plus jeune âge. Et les conneries qu'on leur dit des fois. Ma petite fille a perdu une dent dernièrement. Et je me suis surpris à lui raconter. J'ai dit, si tu la mets sous l'oreiller, ma chérie, eh ben la petite souris viendra te donner une pièce. Mais c'est complètement tordu.
C'est complètement tordu. Souris.
Mais oui. Non mais vous trouvez que c'est sain d'inciter un gosse à vendre des parties de leur corps pour de l'argent? Non ma chérie, la prostitution n'est pas un moyen viable de gagner sa vie. Vendre ses dents, oui. Vendre son cul, non. Mais tous les jours, je me vois réveiller mes enfants. Ça c'est surtout ma femme, parce que moi je me réveille plus tard. Non, c'est vrai, rendons à César ce qui est à César. Allez debout, faut aller à l'école. Et l'autre fois, mon petit garçon m'a regardé avec ses grands yeux bruns, plein de sommeil. Il m'a demandé, mais pourquoi papa? Et j'ai menti. Je lui ai dit, il faut que tu ailles à l'école pour que tu deviennes un citoyen honnête, cultivé, ouvert sur le monde et que plus tard tu puisses avoir un travail. Alors que si j'avais été honnête, je lui aurais dit, tu dois aller à l'école, apprendre avec des inconnus des trucs qu'on devrait t'apprendre nous, si on n'était pas obligé d'aller bosser pour payer une baraque pour laquelle on s'est endetté sur 30 ans et dans laquelle on n'est jamais parce qu'on est au travail. Hein, et le jour où on pourra en profiter, on sera tellement crevé qu'il faudra que tu la vendes parce que c'est pas avec ce que tu auras appris à l'école que tu pourras payer une maison de retraite. Voilà ce que j'aurais dû dire si j'avais été honnête. Mais j'ai pas fait, j'ai menti, je dis, ça va à l'école. C'est la même chose aux radios. Moi, avant de bosser pour France Inter, quand j'entendais la voix de Daniel Morin, vraiment à l'oreille, je me disais, oh, je rêve d'être cet homme. Je me disais que ça devait être le summum de la séduction, fait homme. Et puis un jour, je l'ai rencontré. Voilà. Et en le regardant, je me suis dit, c'est dingue, Daniel Morin, t'as l'impression que la vie l'a mâché et l'a recraché.
Charmant.
Et en tant qu'auditeur, quand j'écoutais France Inter, c'était pareil. Je me disais que c'était une station de radio qui devait être remplie d'esthètes, de gens ouverts, cultivés, qui le week-end devaient donner bénévolement des cours d'alphabet. l'alphabétisation à des migrants fraîchement débarqués. Mais tu parles, mais une belle station d'escrocs. Les expos et les spectacles dont ils parlent, les livres qui vendent, c'est ceux qu'ils ont lus uniquement parce qu'on leur a donné gratuitement. C'est des vrais pinces ici, hein. Et pareil, niveau diversité, on va pas se mentir, il y a plus de noirs et d'arabes dans un wagon du RER B que dans tout Radio France. Non, tout n'est que mensonge et simulacre. Voilà. Et monsieur Labro, ça me fait bien plaisir de vous revoir et j'espère surtout vous avoir donné envie de rester.
La bande originale. Elle a un peu de musique dans cette bande originale pour qu'elle porte un peu bien son nom. Évidemment, il y a Philippe Labro, l'Américain. Même si ça s'est passé il y a plusieurs jours maintenant, vous teniez à faire un clin d'œil à Chuck Berry.
Bah, plus qu'un clin d'œil, un salut, un hommage. J'aime beaucoup l'idée que le jour où il y avait le grand débat sur TF1 entre les 5 candidats, le journal Libération ait consacré ça une et 5 pages à la mort de Chuck Berry. They're really rocking in Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16, she just got to have about a half a million famed autographs, her wallet filled with pictures, she got them one by one, she gets so excited, watch her look at her rumble, oh mommy, mommy, please may I go, it's such a sight to see, somebody steal the show. Rockin' in Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little sissy. Yes, they'll be rocking on Bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, way out in St. Louis, and down in New Orleans.
Chuck Berry, Sweet Little 16, avec le titre de Libé, si j'ai bonne mémoire, c'est Chuck Berry.
Oui, oui. Bon, c'était pas la peine de faire ce joke, c'est pas la peine. Mais bon, c'est le roi.
Ils sont habitués, en tout cas, pour en venir à Libé, au jeu de mots une.
Mais c'est une façon aussi de vendre un journal, hein, la une.
Ou de marquer sa différence aussi par rapport aux autres.
En tout cas, bravo. Mais ce que je veux dire surtout, c'est bravo Chuck, parce que d'abord, c'est ma jeunesse. Quand j'entends ça, je me retrouve à 18 ans aux États-Unis comme j'étais jeune étudiant. Et puis, il a imposé, inventé un rythme. Alors, vous êtes beaucoup plus calé que moi en musique, Nagui, mais les spécialistes vous disent que la façon dont il démarre avec sa guitare, c'était inédit. Et il a imposé à une génération entière un ton, un rythme, des structures musicales et mélodiques. En plus, sur scène, il était incroyable avec son doc.
Avec son pas, oui, son pas de danse.
Le pas du canard.
On dit qu'il a inventé le rock et surtout qu'il a inventé les rockers.
Oui.
La posture même du rocker sur scène.
Oui, y compris le comportement off.
Oui, il n'a pas été un bon garçon.
Il avait son caractère. Ma mère,
c'est joliment dit.
C'est ce qu'on dit des enfants insupportables. Là, il a du caractère. On va dire qu'il est mal poli.
Il est hyperactif.
C'est un connard, ton fils, moi, barre.
Ma mère, c'est inconnu. C'est signé Philippe Labro chez Gallimard. Nous avons demandé à Anne-Marie Leroyer, merci Anne-Marie de venir à ce micro. Vous êtes professeur à l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1. Vous dirigez le département de recherche sur la famille et le patrimoine de l'Institut juridique et de recherche de la Sorbonne. Vous venez d'écrire Filiation, origine, parentalité, le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle. Vous cherchez même à faire évoluer les choses ou modifier la loi. Quel est votre combat? Si on peut le résumer en une phrase.
Non, ça c'est absolument impossible de résumer un tel combat en une phrase.
Vous avez réuni 23 experts pour faire ce livre, pour aborder les problèmes de la filiation en général, l'adoption, l'assistance médicale à la procréation, la gestation pour autrui. On dit pour autrui ou par autrui d'ailleurs?
La GPA, gestation c'est pour autrui, parce pour autrui. Que c'est celui qui, celle qui porte l'enfant pour.
D'accord. L'homoparentalité, l'accès aux origines, et c'est de ça aussi dont je voudrais que nous parlions, le problème des familles recomposées. La loi va peut-être encore changer dans tous ces domaines, c'est-à-dire que c'est toujours le politique qui décide pour la famille.
Oui, c'est le politique qui décide pour la famille. Et d'ailleurs, cette observation que vous faites me renvoie à une phrase que j'ai en tête dans le livre, qui est une très belle phrase. Et si vous m'y autorisez, je vais la lire.
Mais vous êtes chez vous.
Alors, bon ben voilà, j'ai perdu la vie. On n'abandonne pas ses enfants. Il existe des règles immuables et non écrites et qu'il n'est même pas besoin d'énoncer. On n'abandonne pas. Et donc, cette phrase m'a beaucoup émue, parce qu'on dirait là le cri d'une Antigone par rapport aux règles écrites dont je vais vous parler.
Ça ne se fait pas, oui. Ça ne se fait pas. Depuis la nuit des temps, on n'abandonne pas ses enfants.
On n'abandonne pas ses enfants. Et c'est un peu...
Ou alors, il ne faut pas qu'on le sache.
Non, mais la parole est presque une référence à ce qu'on pourrait nommer un droit naturel, immuable, intemporel, au-dessus des règles écrites. Oui. Et c'est ce cri du cœur qui m'a semblé ici magnifique dans ce livre. Mmh. Et pour parler des règles écrites, vous disiez, est-ce que c'est le politique qui fait les règles écrites? Ben oui, on est en démocratie, c'est le Parlement qui fait les règles écrites. Ça n'empêche pas un groupe d'experts d'essayer de faire des propositions pour faire évoluer le droit. C'est difficile, on voit bien que les candidats qui s'expriment choisissent peu le sujet de la famille, d'ailleurs, pour essayer de dire ce qu'ils vont faire sur ces questions. Et en ce qui concerne l'accès...
Il y a des questions plus délicates que d'autres, on va dire.
Oui, on va dire plus
préoccupant. Non, mais la gestation pour autrui, ça pose un vrai clivage.
Oui, ça divise.
Voilà. Pour en revenir au travail de Philippe Labro sur le travail d'enquête et d'investigation, est-ce que c'est difficile, compliqué d'avoir accès aux papiers, à l'administration, pour avoir les fiches d'état civil, les actes de naissance, qui vient d'où et quel est le parcours de nos ancêtres?
Oui, ça dépend des situations, parce que parmi les enfants abandonnés, certains, par exemple, sont nés sous X. Et d'autres ont été adoptés avec ce qu'on appelle des parents d'origine ou des parents de naissance. Donc ils ont eu un acte de naissance où figurait le nom de leurs parents et ensuite ils ont été adoptés. Et que ce soit l'une ou l'autre des situations, ces enfants qui soit sont nés sous X, soit ont eu des parents de naissance et ensuite ont été adoptés, dans les deux cas, eh bien ces enfants-là peuvent voir mentionner sur leur acte de naissance l'existence d'un jugement d'adoption. L'existence de ce jugement est portée en marge de l'acte de naissance. Donc la personne qui a été adoptée peut savoir qu'elle a été adoptée. Mais ensuite, si elle cherche à savoir quels sont ses parents, qu'on appelle les parents de naissance, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans notre droit français, la situation qui est envisagée est uniquement celle qui a été organisée sous l'instigation de Ségolène Royal en 2002, qui est ce qu'on appelle l'accès aux origines personnelles de l'enfant né sous X.
Donc si on est né sous X, on a le droit de savoir ou d'enquêter. L'administration se doit de nous donner les informations.
Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le système qui a été mis en place est un système de compromis. On a créé un conseil, qui est le Conseil national d'accès aux origines personnelles. Et ce conseil peut être interrogé par la personne qui se doute qu'elle est née sous X ou à laquelle on a dit qu'elle était née sous X. Et le conseil, à ce moment-là, peut éventuellement, si la mère de naissance a donné son accord... Ou des renseignements non identifiants et qu'elle donne son accord interrogé, communiquer à l'enfant majeur ou à l'enfant mineur accompagné de ses représentants ses renseignements ou le nom de sa mère.
C'est-à-dire qu'un enfant né sous X, mais si sa mère n'a pas voulu, ne veut absolument pas qu'il sache qui elle est, et bien l'enfant ne peut pas savoir.
L'enfant ne peut pas savoir. En fait, on a élaboré un système de compromis.
Même majeur, on est d'accord.
Même majeur. On a élaboré un système de compromis entre le droit, le maintien de l'accouchement sous X pour la femme qui souhaite accoucher dans l'anonymat, et puis le droit de l'enfant d'avoir accès à ses origines personnelles. Ce système de compromis est imparfait, on le voit bien, puisqu'il n'autorise pas l'enfant, si la mère ne le veut pas, à avoir accès à ses origines. Mais ce système-là a été maintenu parce que le droit français est un des seuls pays de l'Union européenne, avec l'Italie, à finalement maintenir le système de l'accouchement sous X, qui est considéré comme une mesure de protection de la mère et des enfants à naître. Et dans les pays de l'Union qui n'admettent pas ce système, eh bien on voit revenir des pratiques finalement qui tentent à pallier l'absence de mécanismes juridiques adéquats.
Philippe Labro, vous avez rencontré des problèmes administratifs justement pour accéder à des registres d'état civil ou à...
Non, parce que je suis contenté d'écrire aux mairies des endroits où je savais que ma mère et son frère étaient nés, et c'est fascinant, une fiche d'état civil, hein, parce qu'il y a tout. C'est là que j'ai vu écrit tout petit, le destin de ma grand-mère, qui ensuite, après avoir vécu tout ce qu'elle a vécu, s'est remariée. Je ne le savais évidemment pas. Donc il y avait même la date et le nom de son mari. Donc sur une fiche d'état civil bien faite, parce que les mairies, hein, elles sont très très organisées pour ça, je trouve. J'avais toutes les infos nécessaires, suffisantes.
Est-ce que maintenant, avec Internet et les fichiers numériques, ouais, et peut-être avec la protection évidemment de la vie de chacun, est-ce que ces recherches sont plus faciles, sont plus efficaces?
Il est plus facile d'avoir communication de la fiche d'état civil pour tout un chacun, si effectivement on a ce système informatisé. Toutes les mairies ne sont pas encore tout à fait organisées.
Il y a des banques de généalogie aussi.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, vous avez tout à fait raison, Philippe Labro, de dire l'acte de naissance, où c'est la mémoire de la vie privée d'une personne.
Absolument.
Tous les changements de la vie sont indiqués en marge. Et quand on demande communication de son acte d'état civil, on peut demander un extrait. La plupart du temps, dans les papiers administratifs, on nous demande un extrait. Mmh. Un extrait avec filiation. Sur l'extrait avec filiation, par exemple, on sait le nom des parents, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie privée de la personne. Mmh. Si elle a divorcé, si elle a changé de sexe, si elle a changé de nom, si elle a été adoptée. En revanche, quand on demande un extrait, une copie intégrale, et non plus un extrait, là, on a toute la vie privée de la personne. Et ce qui est important, c'est que tout à chacun puisse avoir accès à cette mémoire-là, parce que ça le concerne individuellement, ça concerne sa famille, ça lui permet effectivement peut-être de faire des recherches, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi d'autres que finalement la personne même ou ses propres enfants peuvent avoir accès à cette copie intégrale. Et aujourd'hui, la pratique des administrations qui requièrent la copie intégrale est beaucoup trop prononcée. Il faudrait vraiment préserver la vie privée des individus et restreindre l'accès.
Est-ce qu'il y a un phénomène peut-être pas de mode, mais est-ce qu'il y a une tendance, en tout cas, de plus en plus, est-ce que tout un chacun s'intéresse à ses origines et à reconstituer peut-être son arbre généalogique et à savoir d'où viennent ses parents?
Je crois que ça, c'est toujours une quête de chacun de rechercher ses origines. Aujourd'hui, il y a deux débats différents. Il y a la question de l'accès aux origines personnelles qui, en droit, est distincte de la filiation. Et on voit dans ce livre que c'est une quête de rechercher sa mère c'est inconnu, son père inconnu. On est dans la filiation, on cherche à savoir qui sont ses parents. En droit, quand on parle d'accès aux origines personnelles...
On cherche à savoir même quand on croit les connaître.
On ne parle pas de la même chose. Ouais. On a des parents qui sont mentionnés sur l'acte de naissance, et on sait pour une raison ou une autre que ceux qui sont mentionnés sur l'acte de naissance ne sont pas nécessairement ceux qui nous ont donné la vie. Mmh. Et ça vise d'autres personnes que ceux que j'ai mentionnés en cas d'abandon. C'est notamment ceux qui sont nés à la suite d'un engendrement avec tiers donneur. Et aujourd'hui, on voit très bien un certain nombre de ces enfants devenus adultes s'interroger sur leur donneur. Et là, on a une autre façon d'aborder le problème, parce qu'on se dit, autant on peut trouver légitime, et chacun essaye de trouver cette quête d'histoire personnelle. Ce beau livre nous en donne un témoignage.
Merci,
mais en ce qui concerne, par exemple, l'accès à la connaissance de l'identité des donneurs, là, on se dit, mais on n'est plus dans l'histoire, on est dans le génétique. Mmh. Et on oublie parfois quand même que derrière la connaissance des origines génétiques, en réalité, ce que les gens veulent savoir, c'est pas l'ADN de leur donneur, c'est pourquoi il a donné. Mmh. Est-ce qu'il y a ce qu'ils appellent des frères et sœurs, quelle est l'histoire de ce don, etc. Donc il y a aussi une histoire qui se construit dans le don. Mais on voit bien que ce sont deux situations tout à fait différentes.
Merci Anne-Marie Leroyer. Je rappelle donc votre livre chez Odile Jacob, Filiation, Origine, Parentalité, le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle. Merci beaucoup. Bonne journée. Ma mère, cette inconnue, est le livre de Philippe Labro dont nous parlons avec Philippe Labro jusqu'à midi et demi sur Inter. C'est la bande originale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Laïla Kadoboudadi est là.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sidis.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Et notre invité, monsieur Philippe Labro. Philippe qui signe Ma mère, cette inconnue. Ce roman qui émeut, qui touche. Dans quel état étiez-vous au moment du point final? Est-ce que vous étiez comme un effet postpartum, c'est-à-dire à nouveau abandonné?
Non, j'étais fatigué.
Soulagé, fatigué.
Oui. Et surtout insatisfait. Il n'y a pas d'écrivain qui soit satisfait de ce qu'il a écrit. Et je me disais, c'est pas bon du tout. J'ai eu, Dieu merci, quelques réactions assez rapides. D'abord de ma femme, Françoise, et puis de mes éditeurs. Mais je me disais, ça vaut rien, c'est trop court, il y a des répétitions, il y a des redites, il y a des banalités.
Moi, il y a des répétitions, certes, j'ai même pris ça comme une espèce de gimmick, quoi, refrain qui revient.
Oui, c'est une technique de romancier, c'est une technique de scénariste. Parce que vous dites roman, moi je pense plutôt récit. Oui, parce qu'à la fois, il y a des séquences que je suis obligé d'inventer, puisque je n'étais pas présent quand elle avait 20 ans ou 15 ans.
Il y a une part de fiction, c'est ça?
Oui, enfin, une fiction à partir du réel.
Vous comblez les...
Quand je sais par une dame très âgée qu'elle a été humiliée au lycée, je ne sais que cela. Donc, or, ça fait 5-6 pages, ça fait un chapitre entier, où je décris la scène, l'ambiance, c'est ça le romancier. Vous recréez le réel.
C'est même le propre des souvenirs. Hein. Souvent, quand on repense à des souvenirs qu'on a vécus, on est le scénariste de notre propre vie. Hein.
Ouais. Dans ce récit, est-ce que vous appuyez sur des photos aussi?
Oui, beaucoup. Des photos, surtout des poèmes. Ma mère était une poétesse. Elle a même gagné un concours de poésie qui faisait d'ailleurs qu'elle se voyait aller vers la gloire.
Ouais.
Et ça fait partie du problème, selon moi, c'est quand elle a choisi plutôt l'amour et la famille que la gloire, je ne sais pas si elle n'a pas eu une sorte de regret qui a fait qu'elle a tout reporté vers ses enfants, et en particulier sur moi. Mais pas seulement, parce que mes trois frères ont eu aussi des carrières très brillantes. Mais
Vous avez découvert, par exemple, une carte de presse.
Ah oui, c'est dément, ça. Dans les archives, parce que on a réussi à tout retrouver, elle avait tout gardé, toutes les lettres d'amour avec qui à l'époque était son amant, qui va devenir son mari, des lettres prodigieuses, c'est écrit dans un français qui n'existe plus aujourd'hui. Mon père écrivait dans le français du début du siècle. Bref.
Et des lettres, c'était quotidien comme échange.
Oui, non, mais j'ai des caisses entières. Et puis là-dessus, il y a, tout d'un coup, je tombe sur une petite carte, les cartes de presse, l'essor artistique, et je vois une petite photo, qui est d'ailleurs la photo agrandie sur la jaquette de la couverture du livre chez Gallimard, et je me rends compte que ma mère était journaliste. Elle ne me l'a jamais dit. Moi qui,
c'est dingue, ça.
Toute ma vie, lui envoyait les papiers que je faisais. Toute sa vie, elle a suivi ce qu'on peut appeler ma progression. Hein.
Les VHS des émissions que vous lui avez
dans les médias,
aussi,
les VHS des émissions, les bouquins, tout ça et tout. Jamais elle est venue me dire, tu sais Philippe, moi aussi. Alors je ne sais pas combien de temps elle était journaliste. Elle avait une carte de presse. Ça m'a absolument stupéfié. Mais c'est ça, les archives. Vous découvrez d'un seul coup des choses. Alors pourquoi elle ne me l'a pas dit, je ne sais pas. Peut-être, encore une fois, par pudeur ou par modestie.
Mais non, parce qu'on a l'impression que la seule chose dans la communication qu'il y avait entre elle et ses enfants, c'était de s'intéresser
aux autres.
Aux enfants, ouais. Aux petits-enfants, ouais. Aux autres. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu deviens? Parle-moi de ta vie. Ouais. Et ma vie, moi, elle n'est pas intéressante, je vais rien te dire.
Elle est derrière moi, ma vie. C'est mon passé, il m'appartient. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller chercher le passé qui lui appartenait.
Et vous avez l'opinion de vos frères déjà ou...
Vous savez, je suis un écrivain, un romancier, il y a un moment donné où ce livre m'appartient, et je le fabrique et je l'invente en partie. Hein. Enfin, j'invente rien, mais je brode un élément qui...
Et puis c'est votre prisme, c'est votre prisme. Sentiment.
Donc par conséquent, je pense, je ne sais pas, on verra, j'ai envoyé bien sûr à tous mes neveux, à toutes mes nièces, donc tous les enfants, petits-enfants de ma mère, et j'attends sans impatience, et avec le cuir tanné de l'écrivain qui en a son 24e bouquin, à la fois les critiques et peut-être quelques compliments.
Léla.
Et ce point final, il n'était pas trop douloureux pour reprendre cet exergue de Cohen au début du livre.
Ah ben oui, c'est vrai que je l'ai abandonné. Ça y est, le livre est fini.
Une cinquième fois?
Non, parce que elle est en moi tous les jours. Mm-hmm. Comme tous ceux, vous et moi, qui avaient perdu leurs parents, ils sont là tout le temps. Il n'y a rien à faire, au moins une fois par jour. Et même plus souvent, il y a une photo sur mon bureau, tout ça.
C'est même paradoxal, des fois ils sont plus présents, disparus, que quand ils étaient...
Mais parce qu'on se reproche toujours de ne pas leur avoir assez
aimé.
De ne pas les avoir assez aimés. Le grand reproche qu'on se fait quand les parents disparaissent, c'est « j'ai pas assez passé de temps avec lui ou avec elle ».
Philippe Labrou signe donc ce récit « Ma mère, cette inconnue » chez Gallimard. On va passer un peu de temps.
Est-ce qu'on m'a assez aimé?
Est-ce qu'on vous aime assez?
Est-ce qu'on m'a déjà aimé?
En tout cas, tu sais lire dans mes pensées. Voici l'humeur de Daniel Morin.
En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris, une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire à France Inter. Une saga quotidienne avec le malade mental Augustin Trapenard, Prince Nagui, Fabrice Drouel, le pervers schizophrène, Charline Van Honecker, la nympho, mais aussi Laurence, la directrice, accro Dragibus, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr, tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin,
en apparence.
Aujourd'hui, en l'honneur de notre invité, Philippe Labrou, toute la grille de France Inter rend hommage aux mamans. Laurence, la directrice, fait son petit topo. Bon, les enfants, aujourd'hui, on a une thématique, la maman. Oui, aujourd'hui, on rend hommage à Philippe Labrou, l'écrivain de génie, le réalisateur de légende, icône du journalisme, ceinture noire de gymnastique au sol, martyr djihadiste déradicalisé et 13 fois champion du monde de cha-cha. La journée spéciale commence chez Augustin Trapenard.
Ça vous avez pas manqué, ça
vous faites tout seul. Ah, il m'a pas manqué, non.
Chez Augustin dans son émission culte.
Boomerang sur France Inter.
Boomerang, l'émission qui revient le lendemain que tu l'as acheté. Augustin reçoit Charles Aznavour pour une analyse de texte et d'émotion de sa sublime chanson « La Mama ». Malheureusement, le grand Charles sort à peine de chez le dentiste, il n'est pas encore habitué à son nouveau dentier, on ne comprend rien de ce qu'il dit. Quand il tente de s'exprimer, on dirait Michel Houellebecq avec une boule de cuir dans la bouche.
Même dentiste.
L'émission est un échec. Un peu plus tard, on retrouve la thématique de la maman dans l'excellente émission de Fabrice Drouel.
France Inter. Affaire sensible.
Aujourd'hui, une affaire sensible.
Non.
Nous allons revenir sur une histoire d'amour ratée qui a pourtant bien failli changer la face de nos petits déjeuners. Nous sommes en 1988 et bonne maman, la reine de la confiture, est au sommet de sa gloire. En France, un obèse sur 10, c'est grâce à elle. Et puis un jour, elle croise Franck Nutella, le roi de la crème cacao noisette, responsable de l'obésité de 40% de la population française. C'est le coup de foudre. Leur passion naîtra Mamantella. Une crème cacao abricot noisette framboise totalement dégueulasse. Elle dit que c'est la faute de Nutella, le traite de salaud. Bonne maman, la pauvre, trahie. Bref, l'inévitable se produit. C'est la rupture. Pour conclure, la journée maman... Rendez-vous à 17h. L'équipe de Si tu es cool, j'annule tout, jamais à court d'idées. Taquine, elle invite Véronique Courgeon, la congeleuse de bébé, celle qu'on surnomme la Reine des Neiges. L'émission est formidable, tout le monde est en doudoune dans le studio, tout le monde suce du Mister Prise au cannabis, l'hilarité est au rendez-vous et c'est bien là le principal. Les Belges auraient bien prolongé l'émission, mais Véronique Courgeon doit aller travailler, elle prend son service à 18h30 chez Picard. Mon Dieu, quelle radio de génie! Tout le monde a été excellent!
Bref, aujourd'hui encore, à Radio France, le travail d'équipe a payé, la thématique a été respectée. En ce 4 avril, jour de l'indépendance du Sénégal, le résultat est spectaculaire. Et pourtant, tout ça, c'est juste une journée ordinaire.
À France Inter. Merci de venir voir.
Oui, bah, il lui reste encore du talent. Hein.
Il faut. Oh, merci. Ah, il t'en reste. Bah,
faut dire qu'il utilise pas beaucoup. Hein.
Ma mère, c'est inconnu, le récit de Philippe Labrouche et Gallimard. C'est la raison pour laquelle on a le plaisir de recevoir Philippe dans ce studio.
Ça vous emmerde de le recevoir.
Ne touche pas, mon ami. Mais nous avons maintenant le brouillon de culture de Leïla pour Philippe.
Oui,
il connaît pas ce brouillon.
Philippe, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître, Philippe Labrouche. Et on commence par un son qui devrait vous faire plaisir.
And I'm better now than I was when you saw that 22-year-old undeveloped kid running from Sun to Listen. I'm experienced now, professional. Jaws been broke, been lost, knocked down a couple of times. Bad. Been chopping trees. I done something new for this fight. I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator.
C'est un court extrait du discours mythique de Mohamed Ali avant son combat contre Foreman à Kinshasa en 74. Discours dans lequel il se vante d'avoir tué un alligator, une pierre, une baleine ou d'avoir encore emprisonné la foudre. En 2012, Philippe Labrouche, vous avez publié Mon Amérique, 50 portraits de légendes chez La Martinière. Il y avait du Billie Holiday, du Bob Dylan, du Truman Capote, du Fred Astaire et votre héros personnel, celui que vous aimez le plus, c'est Mohamed Ali. C'est dans votre panthéon à vous. Pourquoi un tel attachement à Mohamed Ali?
Parce que je l'ai vu, je l'ai rencontré. J'ai eu la chance d'aller voir quand il faisait son comeback, son premier combat contre Joe Frazier, qu'il a d'ailleurs perdu, après avoir été pendant 2 ou 3 ans banni de la boxe par les autorités américaines parce qu'ils ne voulaient pas aller battre au Vietnam. Ils m'ont rien fait, hein, ces Vietnamiens, je ne vois pas pourquoi j'irais leur tirer dessus. Donc, courageux, passionnant, déjà icône et idole. Il se trouve que, bon, par des relations, des amis, je suis dans une salle où il est là, et il tient ses propos avec cette voix extraordinaire et avec cette volubilité, génie du verbe, de l'invention.
Et donc, une forme de suffisance aussi, quand même, de provocation.
Oui, en tout cas, mais c'est la boxe.
Ce qui va de pair avec le personnage de cette inventivité sémantique.
La modestie, il a jamais tout fait, c'est sûr. Mais en même temps, il se battait contre tous les préjugés de l'époque. Et donc, je m'avance vers lui, je lui touche le coude, comme on fait souvent là-bas aux États-Unis. Et il recule, comme si je l'avais électrocuté. Il dit « Don't touch me !»
Oula.
Ne me touchez pas. Mais ça voulait dire quoi? Le boxeur est effectivement une charge permanente d'électricité et il ne veut pas donner quoi que ce soit de son corps à qui que ce soit avant d'être sur le ring. Ça m'a fasciné. On a un peu bavardé, pas trop. Et puis, je l'ai vu se faire battre. Et puis, toujours par les relations que j'avais dans cet univers, j'ai pu faire ouvrir la porte quelques instants pour le voir sur... comment on appelle ça, quoi? C'est pas un tabouret, c'est enfin... Le lit de massage, où il venait évidemment de perdre. Et il avait tout d'un coup, et ça m'a bouleversé, l'air d'un petit garçon qui a tout perdu. Et j'ai toujours une tendresse, une admiration inouïe pour ce garçon.
Vous pensez que c'est de votre faute qu'il a perdu ce combat, parce qu'on avait touché le ring?
Évidemment.
Vous savez que j'étais dans la salle.
Vous avez pris tout l'influx.
Mauvaise vibration.
Les miquettes. Ouais. Oui, forcément. Les miquettes. On poursuit avec un autre son pour vous, Philippe Labrouche.
Le jugement, c'est le boulot des juges. Moi je ne suis pas un juge, donc ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'essaie de comprendre et d'avancer un peu avec eux aussi sur ces questions assez délicates. Mais le jugement, on va laisser ça aux autres.
C'est un extrait d'une interview de Jonathan Little, prix Goncourt pour les bienveillantes, qui expliquait sa position par rapport aux enfants soldats en Ouganda, qu'il a filmé pour son documentaire Wrong Element, qui est encore en salle. Et à travers lui, je voulais parler d'une caste dont vous faites partie, finalement, Philippe.
Une caste?
Oui, une caste. C'est celle des romanciers journalistes.
Ah oui.
Il y a la tradition, avec la grande tradition des Kessel, des Hemingway. C'est une grande famille.
Oui, bien sûr.
Vous vous sentez...
Je crois qu'il préfère famille que caste.
Oui, mais c'est pas péjoratif pour cette caste-là, c'est vraiment...
parce que
c'est factuel. Non, c'est un terme comme un autre.
Qui est pas...
En tout cas, ça a l'air...
Il a battu Mohamed Ali. Enfin.
Oui, c'est vrai, l'influx de Mohamed Ali, mais je sais que Philippe Labrome est bienveillant à mon égard, donc je ne risque rien.
Il a ses limites aussi.
Si je peux vous répondre... J'ai pas la prétention de me mettre dans la même classe que Kessel, Roger Vaillant, Hemingway, Albert Londres, dont la phrase géniale est quand on lui disait quelle est votre ligne éditoriale, il disait ma seule ligne c'est la ligne de chemin de fer. J'ai pas cette prétention. Néanmoins, effectivement, j'ai toujours considéré qu'il y avait pratiquement pas de frontière entre le journalisme d'un certain haut niveau et la littérature. Mm-hmm. C'est pareil, c'est décrit, c'est du vu, de l'observer. On y met aussi sa propre personne. Le grand journaliste, pour moi, c'est le journaliste subjectif, à l'américaine, à la Tom Wolfe, qui est aussi une de mes idoles et un ami intime. Et donc, pour moi, Leïla, c'est pareil. Ce qui compte, c'est de voir et faire voir.
Et Hemingway disait qu'il fallait arrêter le journalisme parce qu'on y perdait son jus. Vous savez qu'il y avait cet influx, pour revenir à cette notion-là, qui était pris d'assaut comme ça par l'activité de journaliste et que si on voulait se consacrer davantage au roman, il fallait savoir s'en distinguer. Est-ce que vous vous sentez aussi dans cette posture-là. Vous ressentez ça comme Hemingway?
Oui, j'ai toujours eu un... J'adore le journalisme, c'est dans mon sang, c'est dans mes veines. Hein. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Mais il est vrai que lorsque vous êtes face à la vraie écriture, ce que j'appelle la vraie écriture, c'est-à-dire la feuille de papier blanche qu'il faut imaginer et inventer, il vaut mieux ne pas trop, dans la même journée, aller faire une émission radio ou trop lire de journaux. Et donc, il faut à la fois se détacher de l'actu et de l'info. Et en même temps, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas passer la matinée. Moi, je suis arrivé ici, j'ai déjà lu tous les journaux, n'est-ce pas? Mais il est vrai qu'il vaut mieux, et Hemingway avait raison, à un moment donné, conserver ce qu'il appelait son jus. Et le jus, il n'arrive pas comme ça, hein. N'est-ce pas, Daniel?
Ça, c'est sûr.
Et pour finir, Philippe, je vous fais un cadeau.
Vous êtes trop gentille.
Tenez, je vais vous le faire passer.
Un chèque de 3000 euros. Non. Eh oui, voilà, c'est comme ça, c'est France Inter. Depuis qu'il y a de la pub, on a du pognon.
C'est le tour du monde en 80 jours. Vous connaissez forcément, c'est Jules Verne. Sauf que là, c'est le manuscrit aux éditions des Saint-Pères.
Bravo, c'est beau.
Vous avez le manuscrit intégral à la main. Vous pourrez voir toutes les notes d'écriture, les ratures, les brouillons.
Très bel objet.
C'est un objet, voilà, il est assez unique. Il y a très très peu d'exemplaires dans le monde, en fait. Il y a en plus des feuillets autographes qui sont conservés au musée de Nantes, qu'on peut voir au musée Jules Verne de Nantes.
Il n'y a pas tellement de ratures dans l'écriture, c'est assez fascinant.
C'est une petite écriture très resserrée. Ouais. Vous verrez qu'il y a pas mal de tableaux aussi, avec des informations très précises pour donner corps à son récit. Il y a une préface de Jean-Christophe Ruffin qui
est lui-même un très grand romancier.
Absolument, qui précisait que ce n'était pas tant le tour du monde en 80 jours un roman futuriste, mais plutôt une façon de situer le progrès dans le passé. Voilà comment il qualifiait ce texte-là.
Donc c'est un texte aux éditions des Saint-Pères.
C'est aux éditions des Saint-Pères, absolument. Et c'est un texte qui a été inspiré d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Donc dans laquelle en fait les personnages profitent d'une différence de méridien pour étendre le temps. Et voilà le document en question.
Je vous remercie infiniment.
Il sent le bon livre neuf en plus.
Ah oui,
il a un joli parfum.
Non, et puis c'est toujours passionnant de lire un manuscrit écrit.
D'ailleurs, vous travaillez avec à la plume toujours.
Je travaille avec ça.
D'accord, votre stylo.
Le stylo.
Et pas le crayon de papier, le crayon de bois.
Ah oui, non, le crayon, pour moi, c'est un fétiche. Parce que chez moi, dans mon bureau, l'équivalent d'à peu près une centaine de crayons.
Ça fait deux chaînes, à peu près. C'est en équivalence.
En arbre.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est des objets que j'aime parce que c'est à la fois du bois, j'adore le bois. Et puis, il y a une gomme au bout, ce qui vous permet d'effacer vos bêtises.
Et vous raturez beaucoup quand vous écrivez ou vous faites un jet?
Oui, c'est illisible. Je n'arrive même pas à me relire. Donc, je suis obligé ensuite de dicter ce que j'ai lu. Ce que j'ai écrit, et ensuite, ma collaboratrice le tape.
Et le travail oral vous permet de corriger aussi certaines choses?
Oui, bien sûr, toujours. Et une fois que c'est tapé, je rewrite, je réécris, je coupe les branches, je reviens sur le manuscrit une quinzaine de fois. Pour moi, il faut se débarrasser des adjectifs inutiles, des adverbes inutiles, il faut aller au plus serré. Et d'ailleurs, j'ai changé mon écriture. Quand je relis certains de mes premiers romans, c'est plus du tout le même.
En tout cas, c'est extrêmement agréable à lire. Ça se dévore. Pendant que Leïla parlait, pendant l'émission, vous n'avez cessé de dessiner. Je ne vous connaissais pas ce talent de dessinateur.
Alors, c'est pas un talent, c'est un tic. Non, je suis pas très bon dessinateur. J'essayais de dessiner la jeune femme que vous avez reçue tout à l'heure, la juriste.
Oui, j'ai compris qu'elle vous avait plu, oui, mais...
Non, mais elle est bien coiffée, elle a des jolis cheveux.
C'est ça. Elle est bien coiffée, elle a des jolis cheveux.
Il est pas compliqué, Philippe Labro. Tu couches chez Jean-Louis David, et puis c'est parti. Hein.
Je comprends que moi, il en a rien à foutre.
Ah, c'est plus facile avec vous, mon cher.
C'est vrai, c'est la cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes pour Philippe Labro. Nous allons commencer par, tiens, Frédéric Sébis.
Alors, il est sympa en vrai, Vincent Bolloré ?
Oui, tout à fait. En vrai, il est très sympa, oui.
D'accord. C'est combien d'années que vous connaissez d'ailleurs Vincent Bolloré, vous ?
Pas une trentaine d'années.
Ah oui. Tom Villa.
Les qualités pour faire un bon journaliste ?
Curiosité. Humilité.
Daniel Morin.
Justement, c'est la curiosité qui vous a amené au journalisme ou c'est le contraire, le journalisme qui vous a rendu curieux ?
C'est la curiosité.
Leïla.
Est-ce que vous auriez pu, Philippe, vous lancer en politique ?
Non.
Pourquoi ?
Je les connais trop.
Ça veut dire que vous êtes, vous n'avez pas d'illusions sur le monde politique ?
Pas beaucoup d'illusions sur les êtres humains en général.
Ouais.
Mais le monde politique est particulièrement compliqué pour moi. Et il y faut des vertus et des vices que
vous
je
n'avez
n'ai pas. Ça vous va ?
Ça me va bien.
Ouais, bah, direct.
C'est ça ce tatouage sur le front alors.
Et Florent Pagny, comment va-t-il ? Ma mère, cet inconnu, le récit, nouveau récit, signé par Philippe Labro et qui est sorti il y a à peine 4-5 jours. C'est chez Gallimard, on vous le recommande vivement. Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour Stéphane Plaza qui nous a appelé tout à l'heure pour nous dire que Tom Villa était un salaud car il a bel et bien expulsé une famille de migrants et tous ses enfants pour loger ta sœur. Il aurait aimé que tu le précises à l'antenne. Désolé pour tous les auditeurs joyeux et optimistes qui ont découvert ce matin qu'on était en pleine guerre mondiale. Eh ben ouais, faut être réaliste, les gars. Nous, ici, on a déjà pris les armes, on est courageux. Demain, on envoie Leïla. Désolé pour les enfants de Nagui qui ont appris ce matin, voilà, que père était un djihadiste repenti, proxénète, receleur, trafiquant de drogue, vol de voiture, exhibitionniste et surtout promoteur de Christophe Maé. En même temps, voilà, peut-être mieux qu'ils n'en savent rien. Désolé enfin pour Frédéric Becbédé qui nous a appelé à pause pour se plaindre, il nous a dit, alors comme ça on parle de la ligne des grands écrivains, on parle pas de ma ligne de coke. Voilà, ça y est, c'est fait mon Fredo.
Merci Daniel, merci mille fois Philippe.
C'est moi qui vous remercie.
Et pour votre visite.
C'était très heureux de vous retrouver.
Et pour votre amitié qui m'est extrêmement précieuse.
Oui, vous m'êtes précieux aussi mes enfants.
Ma mère, cet inconnu, le récit est chez Gallimard. Et demain, je ne serai pas là, c'est Leïla qui va vous présenter la bande originale. Oula. Tu reçois Céline Salette.
Et Nicolas Assiol pour le film Corporate, un très très beau film.
Très bien. Enfin, une bonne émission. Donc, ça sera demain.
Il n'est pas là quand on parle de harcèlement.
Ou c'est l'inverse, peut-être, non ? Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci encore, Philippe.
Merci, Nagui. Merci, la bande. Et à demain.